Merci. Et bonjour à tous. Alors, on va continuer dans l'étude du livre des Actes. Alors, c'est un peu particulier parce que dans la lecture, on arrive à Acte 2 et c'est Pentecôte. Donc, on est un petit peu en avance. Pentecôte, c'est dans 2 mois. Bon, mais je trouvais que c'était important, c'est toujours important de lire le texte biblique du début à la fin d'un livre biblique. Bon, voilà. Donc, on est un petit peu en avance. On a aussi senti la résurrection alors que c'est dans 1 semaine. Bon, voilà. Si tu peux déjà mettre la suite. Oui, le texte de Pentecôte est très dense et très long, donc on va le prendre 2 fois. Donc on va juste prendre le début de ce livre-là. Je vous ai mis juste quelques rappels des épisodes précédents. Jésus est vivant, il agit et il enseigne dans le monde. C'est ce qu'on nous dit au tout début du livre des Actes. Et puis que le Saint-Esprit, ben, il fait ça. Il enseigne dans ce monde et il agit dans ce monde. Et nous sommes appelés à être témoins du Seigneur, à prier ensemble, à attendre le Saint-Esprit, à attendre le retour du Seigneur et à être témoins du Seigneur en l'attendant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode de Pentecôte, où on parle en grande partie du Saint-Esprit, comme vous le pensez sans doute, on nous dit surtout qu'on a besoin d'être constamment nourri par Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. C'est finalement ça le plus important. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Mais on va quand même lire et commenter le texte biblique. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 2. Et on va lire à partir du premier verset, le début de ce passage. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait, ment comme le Seigneur lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes Juifs de naissance ou par conversion ? Nous venons de Crète, de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient les choses en ridicule. « C'est le vin doux, disent-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule. Alors on va s'arrêter là, il faut garder le suspense pour la prochaine fois. Voilà. Un épisode central de la vie des églises, puisque c'est quelque part à partir de ces grands événements que naît l'église, qui existe jusqu'à aujourd'hui, évidemment vous le savez. Bon, le texte en lui-même est relativement simple. Jésus a annoncé, c'est au premier chapitre, au verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Jésus a annoncé ça et ça se passe. Pas de surprise, Dieu fait ce qu'il a promis. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses de plus à dire, mais finalement c'est ça hein, le sens de ce message. Ce que Jésus a promis, ça s'accomplit. Le Saint-Esprit ici se manifeste sous forme de vent et de feu, deux expressions qui sont courantes pour parler du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il se manifeste aussi, bon, de différentes autres manières, mais c'est vrai que c'est les manières principales où il le fait. Et surtout, comme Jésus l'avait promis, les disciples deviennent capables, compétents pour témoigner. Alors certains parlent des langues qu'ils ne connaissaient pas avant, et puis Pierre reçoit une force, un courage, une clarté de parole, je ne sais pas comment il faut le dire, pour exposer avec conviction, avec force, la pensée de Dieu. Ça sera la suite du chapitre 2. Comme Jésus l'a promis, ils ont reçu le Saint-Esprit et ça les a transformés en témoins. Voilà. C'est le point central de ce passage. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, on va faire un petit peu d'histoire géo. D'abord un peu d'histoire, puis ensuite un peu de géo. Ça vous ramène quelques années en arrière pour certains. D'abord un peu d'histoire pour parler, tu peux mettre la diapo suivante, parler de la Pentecôte juive. Pentecôte, c'est avant tout une fête juive importante qu'on appelle dans l'Ancien Testament la fête des semaines ou la fête de la moisson ou encore la fête des prémices. Le mot Pentecôte vient de mot grec. Vous savez ce que ça veut dire ce mot Pentecôte ? Cinquantième. Cinquantième. Parce que c'est le cinquantième jour après Pâques. En hébreu, c'est plutôt la fête des semaines ou de la moisson ou des prémices. Voilà. C'est une fête importante et c'est la fête qui attire le plus de pèlerins à Jérusalem. On nous précise ici qu'il y a plein de gens à Jérusalem. Oui, la fête de Pentecôte, c'est la fête la plus importante, semble-t-il, à l'époque. En tout cas, là où le plus de juifs se déplaçaient à Jérusalem, beaucoup plus qu'à Pâques, par exemple. Vous voyez en passant que les disciples vont fêter les fêtes juives. Voilà. Ils ne vivent pas leur vie chrétienne comme une espèce de rupture avec le passé, mais plutôt comme le prolongement de ce qu'ils vivaient dans leur fête juive. Et juste pour la petite note, je vous ai mis une diapo avec un des vitraux de la cathédrale. Ouf, c'est tout petit pour vous, mais vous irez le voir dans la cathédrale. C'est celui que j'explique toujours quand je lui fais visiter la cathédrale. C'est une manière de raconter un peu ce que pensent les disciples. Vous avez en bas les quatre grands prophètes, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, etc. Et puis sur leurs épaules, on voit surtout tout à droite, hein, sur leurs épaules, vous avez les quatre évangélistes. Matthieu, Marc, voilà. Vous voyez la manière de montrer, les évangiles sont assis sur les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est bien ce que l'apôtre Pierre dira dans son discours juste après. Il n'y a pas une rupture, il y a des nouveautés bien sûr, mais c'est un prolongement, c'est la suite. On monte sur les épaules de ce qui a été construit par Dieu avant nous. C'est la fête juive des récoltes ou des prémices. En fait, le début des récoltes. Avec souvent une offrande spéciale qui est faite en particulier pour les pauvres, mais aussi pour l'entretien du temple. C'est d'ailleurs intéressant qu'on fait une collecte au tout début. On ne fait pas à la fin un pourcentage de ce qu'on a reçu, vous voyez ? Ce qui est peut-être une indication pour nous qu'on doit plutôt faire donner en début de mois qu'en fin de mois. Hein ? Le Saint-Esprit est lui aussi donné comme les prémices. C'est le début. Et ce qui se passe à Pentecôte, c'est le tout début. Le début de ce qui va ensuite commencer à pousser et porter du fruit tout au long de l'histoire de l'Église. On a ici le début du don de l'Esprit. Et puis il va se passer bien des choses par la suite. Le début de l'Église toute petite, mais qui va se multiplier et se répandre jusqu'au bout de la terre, comme Jésus l'avait promis. Vous remarquerez d'ailleurs que Chartres est malheureusement pas dans la liste des gens qui se convertissent ce jour-là, parce qu'on est dans les fruits qui viennent après. Hein. Au temps de Jésus, Pentecôte était bien sûr la fête des prémices, mais c'était aussi devenu la fête du don de la loi. Tu peux peut-être mettre la diapo. Ah oui, c'est très bien. Quelqu'un qui suit plus vite que moi, c'est parfait. Pentecôte était devenue la fête du don de la loi. On commémorait la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Alors c'est un ajout qui n'est pas biblique, c'est pas ce que Dieu a demandé quand il a donné l'ordre de faire la fête de Pentecôte, mais je trouve intéressant. Quand on parle des bénédictions de Dieu, on pense à des bénédictions matérielles, mais on pense à la Bible qui nous est donnée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Nous avons besoin de pain, évidemment, mais nous avons besoin aussi, et peut-être plus encore, de la parole de Dieu. Ouais. Vous remarquez, c'est d'ailleurs intéressant qu'en fait, en même temps, la Bible et le Saint-Esprit. Dans l'histoire de nos églises évangéliques, certaines des communautés ont eu tendance à fêter surtout la Bible et d'autres à fêter surtout le Saint-Esprit. Vous voyez ici qu'en fait, la Bible et le Saint-Esprit ensemble. Dans la Pentecôte chrétienne, on voit bien le lien avec la fête juive. Le Saint-Esprit qui nous est donné pour inscrire la parole de Dieu dans nos cœurs. On est vraiment dans la suite. Le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est du pain, c'est la parole de Dieu, et puis c'est le Saint-Esprit. En fait, les bénédictions, les cadeaux de Dieu, et le plus grand cadeau de Dieu, c'est toujours le fait que Dieu vient habiter avec nous, vient habiter en nous par son Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Alors nous, on n'a pas forcément vécu du bruit, du vent ou des langues de feu. Ce qui compte, c'est est-ce que nous avons cette communion, ce lien profond, cette relation avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est ça qui compte. Est-ce que Dieu est avec nous ? Il y a d'autres moments dans la Bible où le Saint-Esprit va se manifester. Il y aura parfois du bruit et parfois pas. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, est-ce que le Saint-Esprit est là ? Est-ce qu'il est dans nos vies ? Est-ce qu'il transforme nos vies ? Une petite note, on m'a récemment posé des questions par rapport à Pentecôte et à Pâques. Ah oui, c'est bien celui-là, si tu peux mettre le tableau qui est encore tout petit, ceux qui sont derrière ont plus de chance que ceux qui sont devant. Simplement rappeler courtement, la plupart des fêtes chrétiennes sont un prolongement des fêtes juives. Bon, ça vient pas, tant pis, on va vous commenter ça. La fête de Pâques qu'on va fêter la semaine prochaine, en fait, bien sûr, pour les juifs, c'est la fête de la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage. Pour nous, en fait, que Jésus nous a libérés du péché. Et comme pour les juifs, en fait, que Jésus fait de nous le peuple de Dieu. À Pentecôte, c'est la fête de la moisson et la fête du don de la loi, où on fête le don du Saint-Esprit pour nous. Ensuite, il y a la fête des cabanes, ou la fête des récoltes. Pour les juifs, c'est la fête du temps dans le désert. On commémore le temps dans le désert. Et pendant 2 semaines, les juifs pratiquants vivent dans des tentes sur leur terrasse ou dans leur jardin. C'est une fête qui est rarement fêtée dans nos églises. Certaines églises le fêtent comme étant la fête de la récolte. Puis vous voyez qu'il y a d'autres fêtes qui n'apparaissent pas dans la Bible. Les juifs fêtent la fête d'Hanouka, qui est la fête de la lumière, mais qui en fait... la fête de la commémoration de la reconstruction du temple après l'exil. Et puis nous, on fête Noël, qui n'est pas aussi une fête qui est clairement indiquée dans la Bible, mais où on fête la venue de Jésus pour nous. Voilà, rapidement, les grandes fêtes. Voilà, je vous ai mis un petit résumé. En fait, le Saint-Esprit, le premier fruit, celui qui va annoncer une moisson abondante, le Saint-Esprit va continuer à se répandre tout au long de l'histoire de l'Église. Je ne sais plus quel commentateur disait qu'on ne devrait pas parler du livre des actes des apôtres, mais du livre des actes du Saint-Esprit, parce que finalement c'est lui qui fait l'essentiel du travail. Et c'est vrai encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons besoin de pain, de Bible et du Saint-Esprit du Dieu vivant. Et puis, c'est aussi ce que nous apprend la fête juive, nous sommes appelés à donner plus loin une part de ce que nous avons reçu. On a reçu des biens matériels, on a reçu des biens spirituels, si on ose dire ça comme ça. Nous sommes appelés à les donner plus loin. Voilà. Après avoir fait un peu d'histoire, on va faire un peu de géo. Voilà. Vous avez ici une petite carte avec les villes ou les lieux ou les pays qui sont mentionnés dans ce texte de Pentecôte. La plupart des commentateurs pensent que si Luc a pu dresser cette liste avec exactitude, c'est parce qu'il connaissait des églises et les gens de ces églises lui ont dit « Oui, bah, c'est après Pentecôte qu'on nous a annoncé l'évangile ». Je ne pense pas que les apôtres ont eu le temps de discuter avec les 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là, mais au temps de Luc, une 20aine d'années plus tard, il connaissait des églises où les gens ont dit « Bah oui, voilà, après Pentecôte, quelqu'un est revenu et il a annoncé que Jésus-Christ était le Messie ». Je trouve intéressant de montrer cette petite carte parce que je trouve que ça nous apprend un certain nombre de choses importantes. La première chose, c'est par rapport à la manière dont Luc écrit le livre des Actes. Vous le verrez, quand on va commenter les Actes, au début il va suivre ce que Pierre a fait, ensuite il va suivre ce que Paul a fait. Mais il est bien conscient qu'il se passe plein d'autres choses. Le Saint-Esprit travaille partout ailleurs. À la fin de l'évangile de Jean, Jean nous précise bien qu'il ne peut pas raconter tout ce que Jésus a fait, parce que ça ferait un livre beaucoup trop important. C'est encore plus vrai avec l'avenue du Saint-Esprit qui agit partout. Donc nous, on va suivre l'évangile qui part de Jérusalem, grosso modo, et qui arrive à Rome. Ça, c'est le livre des Actes. Mais Luc est bien conscient que l'évangile est parti partout. Et il s'est répandu partout. Ce qui m'amène à dire que c'est quand même assez intéressant, parce que Luc ne s'intéresse pas du tout qui a implanté l'Église, si c'est Pierre, Paul ou Jacques ou quelqu'un d'autre. Ce qui compte, le Saint-Esprit a agi. Et une autre petite note, un petit peu pour vous taquiner un peu, et moi-même avec, surtout pour les Européens de souche, comme on dit parfois, hein, on a un grand défi, parce qu'on a un certain orgueil occidental. On ne s'en rend pas forcément compte, malheureusement les autres s'en rendent compte. Ça c'est un peu le problème. On pense quelque part, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris l'histoire dans nos écoles, que c'est nous qui faisons bouger le monde. Et parfois on a un peu cette idée que c'est aussi nous qui faisons bouger l'Église. Et il faut parfois un peu se recadrer, quoi. C'est Dieu qui fait bouger les choses. Le Saint-Esprit agit partout. Il n'avait pas vraiment besoin des Européens dans l'histoire. Hein. J'aime parfois me rappeler des trucs comme « Il y a bien plus de chrétiens évangéliques en Chine que dans toute l'Europe ». Et pourtant, c'est étonnant, on lit plein d'ouvrages qui sont écrits par des Européens, mais on ne lit pas ou très peu d'ouvrages traduits du chinois. Ils ont quand même bien des choses à nous dire. Il faut parfois se rappeler qu'il y a eu des églises en Iran, au Soudan et en Inde, bien avant qu'il y en ait en France. Vous savez peut-être que... On pense qu'en même temps que l'apôtre Paul implantait des églises en Turquie, l'apôtre Thomas implantait des églises au sud de l'Inde. Juste pour vous rappeler. Bon. Se rappeler aussi que des chrétiens d'Éthiopie ont implanté des églises au Mali à peu près en même temps que des chrétiens turcs implantaient des églises dans la vallée de la Loire. Ouais. Dieu nous a largement bénis directement, mais nous a aussi bénis par des chrétiens qui ont accepté ce mandat d'être témoins du Seigneur. C'est comme ça que l'Évangile est arrivé jusque chez nous. Le Seigneur nous a richement bénis. Et ça nous implique un peu. Il nous a bénis, nous sommes appelés à donner plus loin une part de ce que nous avons reçu. Bon, on va continuer dans ce texte. Si tu peux mettre juste la suite. Voilà. J'ai écrit ça ainsi. Le texte de Pentecôte, c'est un texte facile, mais un texte piégé. Je vous le dis, c'est un texte très facile. Dans Acte 8, Jésus promet qu'il va donner son Saint-Esprit et que les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent des témoins. Et ça se passe. Alors, vraiment un texte des plus basiques et des plus faciles. Voilà. Après, il y a quelques difficultés et on y viendra après. Une petite note quand même. Le mot esprit en hébreu et en grec, c'est le mot souffle, le mot respiration. On le retrouve dans pneumatique, hein. Voilà. Qui est repris ici avec l'expression de vent. Et j'aime bien parfois dire que vivre avec le Saint-Esprit, c'est comme respirer. C'est facile, c'est vital et c'est bienfaisant. Mais il vaut mieux respirer. Voilà. Quand on respire, on ne réfléchit pas vraiment, en fait. Avant de savoir marcher, on avait déjà respiré, hein. Enfin, heureusement. Hein. Alors qu'en fait, la respiration est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous imaginez ça. Il y a l'air qui entre dans les poumons arrivent à trier tout ce qu'il y a dans l'air, et ensuite l'envoyer dans chacune des cellules de notre corps. C'est un truc extrêmement compliqué, en fait, la respiration. Là, on n'y pense pas du tout. On respire simplement. Et avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose comme ça aussi. On est avant tout appelé à nous laisser remplir du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend tout? Je ne suis pas sûr. Est-ce que les disciples au temps de la Pentecôte ont compris tout? Je ne pense pas. tout au long du Nouveau Testament, ils essayent d'expliquer ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé ce jour-là. L'important, c'est de respirer. Faites demander au Saint-Esprit qu'il nous remplisse. Avec une petite note quand même, c'est comme pour la respiration. On respire sans trop réfléchir, mais on doit quand même essayer de respirer plutôt de l'air propre que de l'air pollué. Vous voyez ce que je veux dire par là? Avec le Saint-Esprit, il y a de ça aussi. On est appelé à laisser le Saint-Esprit nous remplir et j'allais dire quelque part nous traverser pour aller plus loin. J'ai mis une petite image après. Parce que parfois j'ai le sentiment qu'en Europe on est un peu des chrétiens bout de ruche quoi. On reçoit le Saint-Esprit puis on garde pour nous, ça fait un espèce de gros ballon qui gonfle, vous voyez. On n'est pas appelé à ça. On reçoit le Saint-Esprit pour être des messagers du Seigneur. C'est pour ça que j'ai mis des drapeaux, je ne sais pas ce qu'il fallait mettre d'autre. Hein. Mais les drapeaux, ils indiquent quelque chose et puis ils laissent passer le vent, hein, si j'ose dire ça comme ça. Nous sommes appelés à dire les merveilles de Dieu autour de nous, c'est ce qu'ont fait les disciples. Vous remarquerez que simplement dire ça, nous sommes appelés à dire les merveilles de Dieu, ça nous engage beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on est facilement des râleurs? Ouais. C'est normal, hein, on a plein de défauts, les autres ont plein de défauts, voilà, il y a toujours des raisons de râler. Mais on n'est pas appelé à ça finalement. On est appelé à dire les merveilles de Dieu. Et pour reprendre ce texte de Pentecôte, on est appelé à le dire dans la langue de l'autre. Et vous savez que c'est pas facile. Hein. Tous ceux qui sont mariés parmi nous, vous savez que c'est pas facile de parler la langue de l'autre. Ouais. Mais c'est notre boulot. On est appelé à dire les merveilles de Dieu de manière que l'autre le reçoive vraiment, l'entende, que ça transforme sa vie, qu'il sache oui, le Seigneur est merveilleux. Ceci étant dit, il faut quand même parler un petit peu des difficultés avec ce texte. Parce que, dans l'histoire de l'Église, on lui a fait dire pas mal de choses. Et je pense nécessaire de donner un certain nombre de points de référence. Quelques précisions quand même, pour être clair. Je ne crois pas qu'il y ait de problème dans nos Églises sur l'interprétation du texte biblique, ni même sur la question du Saint-Esprit. Le texte est relativement simple et relativement clair. Jésus promet le Saint-Esprit et il le fait. Et l'Église vit parce que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Le problème est beaucoup plus lié à des interprétations où quelque part on a pris notre histoire, on a pris nos expériences, puis on les a projetées dans le texte. Au lieu de faire l'inverse, on prend le texte et on essaie de comprendre notre vécu à partir de ce que dit la parole de Dieu. Alors je vais prendre deux exemples un peu classiques, où on a fait un peu des dérapages dans l'interprétation, à mon sens. Le premier, c'est la question du parler en langue, dont on parle beaucoup depuis le réveil du Pays de Galles. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a démarré à l'époque du Pays de Galles, hein, mais on en parle surtout à partir du réveil du Pays de Galles vers 1900. L'expression « parler en langue » fait référence à ce que les théologiens appellent la glossalalie, le fait de parler dans des langues qui sont inconnues sur Terre. L'apôtre Paul fait tout un développement sur cette question, c'est dans 1 Corinthiens 14. Mais voyez bien ici que dans ce texte de Pentecôte, on ne parle pas du tout de ça. On parle de la capacité de parler une autre langue que ma langue maternelle, mais une langue que les gens connaissent. Vous voyez, on parle d'autre chose. Et voilà, il y a eu beaucoup de commentateurs qui ont vu dans ce texte-là le parler en langue dont Paul parle dans 1 Corinthiens 14, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Vous voyez ? On a voulu interpréter ce texte pour lui dire des choses qu'il ne dit pas, en fait. D'ailleurs, en passant, le mot où on parle, que les disciples parlent dans différentes langues, est un mot assez rare qui est utilisé dans la Bible presque exclusivement pour les prophètes. On pourrait traduire tout aussi bien, les disciples ont commencé à prophétiser dans toutes sortes de langues, les langues maternelles des gens qui étaient là. En passant, j'ai rencontré une fois un prédicateur de l'île de Timor qui parlait couramment l'allemand sans l'avoir jamais appris. Le Seigneur lui a dit « parle », il a parlé, puis les gens ont compris. Ils étaient tout surpris parce qu'ils ne comprenaient pas, mais bon. C'est aussi un prédicateur qui a vu des gens traverser un fleuve en marchant sur l'eau, ou qui a célébré la scène plusieurs fois avec de l'eau, on avait prié et puis c'est devenu du vin d'ici qu'on se serve. Enfin, c'est des choses qui sont attestées par les historiens, c'est pour ça que je l'ai dit ici, hein. Si je le dis comme ça, c'est pour dire les prophéties, les miracles, le fait de parler dans des langues inconnues, des expériences comme des langues de feu, c'est quelque chose de relativement courant dans l'histoire de l'Église. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des Camisards, dont on parle parfois, vers 1700, où des enfants de 10 ans prêchaient et chantaient en français, alors qu'ils ne parlaient pas français. Ils parlaient patois sévenol. Ouais. Oui, c'est des choses relativement courantes. Mettons, c'est pas ça l'important. L'important, nous avons besoin du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit change nos vies. Un autre souci d'interprétation, je crois que j'ai mis sur un autre diapo, voilà, c'est que dans le livre des Actes, Luc utilise deux expressions assez différentes pour parler du Saint-Esprit. Et le problème, c'est qu'en français, on n'a qu'un mot pour dire « remplir ». En grec, il y en a deux. Donc on a parfois des problèmes, et on a parfois mélangé les choses. Et mélanger les choses a parfois conduit à des choses un petit peu surprenantes. Alors, une des expressions, c'est une expression plutôt liée à la maturité. Hein, quand on dit que des disciples qui sont remplis du Saint-Esprit, voilà, on voit une maturité chrétienne dans leur vie. On a vu dans leur vie l'action du Saint-Esprit qui a changé leur vie petit à petit. Dieu vient dans nos vies à notre conversion et puis petit à petit, il fait son œuvre. Puis une deuxième expression, c'est une expression plus liée à une puissance qui est donnée pour une mission spéciale. On reçoit l'aide du Saint-Esprit pour une mission spéciale. Du coup, ce n'est pas forcément quelque chose de permanent. On voit par exemple dans la vie de l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, hein, qu'à plusieurs moments, il a une mission difficile à faire et il reçoit une puissance du Saint-Esprit pour le faire. Alors il va continuer à grandir dans la maturité pendant ce temps, hein, mais à plusieurs moments dans sa vie, il a besoin de recevoir une puissance spécifique pour accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Dans le livre des Actes, c'est toujours pour témoigner, hein, ça c'est facile. Hein. Voilà. Ce qui est fondamental dans notre passage, c'est le don du Saint-Esprit, les prémices de ce qui va grandir ensuite. Et on aura un avant-goût dans le livre des Actes de qu'est-ce que ça veut dire, l'action du Saint-Esprit, dans la vie des hommes, dans la vie de l'Église. Je dis comme ça en disant, plutôt que chercher un événement ou un autre, en fonction de notre histoire, on veut surtout voir quelque chose ou surtout pas voir quelque chose, nous sommes appelés à chercher à vivre vraiment avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Lorsqu'on se concentre sur des expériences qu'on a vécues, nous, qu'on veut revivre, ou des expériences que d'autres ont vécues et qu'on veut revivre, on fait fausse route. Nous sommes appelés à vivre aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Dieu est très créatif, il n'aime pas se répéter. Ça nous surprend un peu, hein, parce que nous, on aime bien les répétitions. Dieu est créatif, et la manière dont il va agir dans la vie de chacun de nous va peut-être être assez différente. J'insiste un petit peu là-dessus parce que je vois souvent, dans mes visites pastorales, des gens qui sont fixés sur une chose ou sur une autre, sur une expérience ou sur une autre. Je crois que l'enseignement de la Pentecôte, c'est qu'on doit se laisser surprendre par le Saint-Esprit et qu'on doit surtout l'accueillir. Permettez-moi quand même de dire quelques mots un peu personnels. Lorsque je me suis converti, le Seigneur m'a donné une passion pour la Bible. Je crois avoir lu la Bible en entier en moins de 6 mois, tellement c'était trop génial, quoi. Maintenant, le Seigneur a dû ensuite m'apprendre à aimer Dieu beaucoup plus que aimer la Bible. Comprenez ce que je veux dire par là? C'est bien d'aimer la Bible. Nous sommes appelés à aimer notre Seigneur. Dans la suite de ma vie chrétienne, j'ai eu une période où je voulais absolument parler en langue et je faisais le tour de toutes les soirées de louange pour Alain Clément. Bon, et le Seigneur a dû m'apprendre à l'aimer lui, plutôt qu'à chercher une expérience. Après, il m'a fait vivre toutes sortes de choses, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est est-ce que j'aime mon Seigneur? Et est-ce que je laisse agir dans ma vie? Parler en langue ou pas, prophétiser ou pas, c'est pas vraiment le problème. Des flammes de feu ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la personne du Saint-Esprit dont nous avons absolument besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit à la fois pour nous booster, donner une puissance pour des missions particulières, et à la fois pour changer nos vies, pour nous rendre des chrétiens mûrs, adultes. Et ce qu'on voit, ce que font les disciples, c'est que surtout ils prient et ils acceptent de devenir des témoins. Ils laissent le Saint-Esprit faire d'eux des témoins. Voilà, quelques mots de commentaire, on pourrait dire beaucoup plus sur ce passage extrêmement riche. Jésus l'a promis, il donnera son Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit nous transformera pour qu'on puisse être ses témoins. Et le Seigneur y tient parole. Je vous invite à prier encore.